Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le monde aujourd'hui. Il est 19h30 en temps universel. Jacques Aristide dans la capitale américaine à la une de l'actualité ce soir. Rencontre inédite entre les anciens présidents ivoiriens Henri Konan-Bédier et Laurent Gbagbo à Bruxelles à un an de la présidentielle en Côte d'Ivoire.
Aujourd'hui, M. Bédier s'aperçoit que la coalition qu'il avait passée avec M. Ouattara en 2006 contre le président Laurent Gbagbo est une coalition qui a desservi la Côte d'Ivoire.
Au Nigeria, interdiction d'un mouvement chiite radical après des manifestations meurtrières à Abuja. Au Soudan, au moins 5 manifestants ont été tués par balles à la veille des pourparlers pour finaliser un accord sur la transition. Aux États-Unis, le président Donald Trump critique un pasteur de la communauté africaine-américaine après des accusations de racisme. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Six militaires burundais de la mission de maintien de la paix en Somalie, ou AMISOM, ont été tués dans une attaque dans la région de Balad, à une trentaine de kilomètres de la capitale Mogadiscio. Cette attaque a été revendiquée par le groupe extrémiste Al-Shabaab. Le point avec Willy Eloge Kaniza à Nairobi.
L'attaque a eu lieu dans la matinée de samedi contre un convoi de militaires burundais en patrouille dans le district de Balad, à 36 km au nord-est de la capitale Mogadiscio. Après des échanges de tirs, les Shabab ont été repoussés. Des sources au sein du contingent burundais indiquent que 6 militaires burundais ont été tués sur le champ, dont le commandant en second du 53e bataillon AMISOM. 3 militaires ont été grièvement blessés, tandis que 2 autres sont portés disparus. Plusieurs effets militaires ont été endommagés. Sur son site, le groupe terroriste Al-Shabaab revendique l'attaque, arguant avoir brûlé 3 véhicules militaires et tué 10 militaires. Le colonel Floribert Biereke, porte-parole de l'armée burundaise, confirme l'attaque sans donner plus de détails. Toutefois, il promet de donner le bilan complet ultérieurement. Eloge Wikaneza, Nairobi, pour la Voix de l'Amérique.
Tête à tête aujourd'hui en Belgique entre les deux anciens chefs d'État ivoiriens Henri Konan-Bédier et Laurent Gbagbo à un an de la présidentielle de 2020. Il s'agit de leur première rencontre depuis la fin de la crise post-électorale de 2010 qui avait fait plus de 3000 morts. Les deux anciens chefs d'État demandent la libération de tous les prisonniers politiques et militaires. Ils appellent également le gouvernement à procéder à une réforme profonde de la commission électorale. Henri Konan-Bédier, qui avait apporté son soutien à Ouattara contre Gbagbo, veut désormais soutenir un candidat de son parti PDCI l'an prochain. Nous y reviendrons dans la partie magazine. Au Nigeria, le bureau du chef de l'État annonce l'interdiction du mouvement chiite radical MIN après une série de manifestations meurtrières dans la capitale Abuja pour faire libérer son chef Ibrahim Zakzaki. Son procès a été ajourné une nouvelle fois la semaine prochaine. Incarcéré depuis décembre 2015, il ne s'est pas présenté au tribunal de Kaduna aujourd'hui pour des raisons de santé. Le point avec notre correspondant Gilbert Tamba à Abuja.
C'est le deuxième report en un mois et aucune raison n'a été donnée. Mais un peu plus tôt ce matin, la police de l'État de Kaduna avait renforcé la sécurité dans la ville avant l'ouverture de l'audience de la haute cour qui devait statuer sur la demande du chef du mouvement islamique du Nigeria. Ibrahim Zakzaki, qui n'était pas au tribunal, demande l'autorisation de voyager à l'étranger pour se faire soigner. Plusieurs routes du centre-ville de Kaduna ont été fermées à la circulation. Au même moment, une haute cour d'Abuja a autorisé l'interdiction de l'organisation chiite dans le pays. Le président Buhari a déclaré dans un communiqué que son gouvernement devait agir contre le groupe chiite avant que la situation ne devienne incontrôlable. Le groupe des chiites n'a pas tardé à réagir, qualifiant cette interdiction par le gouvernement fédéral comme une grosse blague. Les affrontements entre les membres du mouvement chiite et la police ont fait plusieurs morts à Abuja.
Nouveaux affrontements meurtriers au Soudan. 5 manifestants, dont 4 étudiants, ont été tués par balle aujourd'hui lors d'un rassemblement à la veille de la reprise des pourparlers entre pouvoir militaire et chef de la contestation pour finaliser un accord sur la transition. Yacouba Ouidraogo.
5 martyrs sont tombés sous les tirs de snipers lors d'un rassemblement pacifique, a déclaré le comité de médecins proche du mouvement de contestation, faisant état d'un nombre indéterminé de blessés. L'association des professionnels soudanais a affirmé que des balles réelles ont été tirées contre ce qu'elle a qualifié de massacre et a appelé aujourd'hui à de nouvelles manifestations. Les autorités ont annoncé un couvre-feu de 21h locales à 6h, pour une période indéterminée dans 4 villes de l'état du Kordofan Nord, dont Al-Obeid. Le 17 juillet, les généraux et les leaders de la contestation ont conclu un accord sur un conseil souverain composé de 5 militaires et de 6 civils chargés de diriger la transition pendant 3 ans. Ils reprennent les négociations demain pour finaliser leur accord. Depuis décembre, le mouvement de contestation a fait au moins 246 morts, dont 127 manifestants tués le 3 juin sur les lieux d'un sit-in à Khartoum, selon un bilan du comité de médecins proches de la contestation. De leur côté, les autorités parlent de 171 morts.
J'ajoute que Mohamed Hamdan Daglo, numéro 2 du Conseil militaire au pouvoir au Soudan, a rencontré aujourd'hui au Caire le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Les forces de Mohamed Daglo ont été accusées de la dispersion brutale d'un sit-in de manifestants à Khartoum en juin dernier. Le président égyptien a réitéré son soutien aux voisins soudanais et à ses militaires, d'après le porte-parole d'Abdel Fattah al-Sissi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'actualité américaine, le président Donald Trump accuse le révérend Al Sharpton, figure du mouvement de défense des droits des Africains américains, d'escroc qui déteste les blancs et les policiers, dit-il. Cette nouvelle polémique intervient après des critiques du locataire de la Maison Blanche pendant le week-end écoulé contre un élu noir de la ville de Baltimore, Abdourahman Zia.
Al est un escroc. Un agitateur a dénoncé Donald Trump, commentant un tweet d'Al Sharpton qui annonçait son intention de se rendre à Baltimore, une ville que le président a qualifiée le week-end d'endroit très dangereux et sale, infesté de rats où aucun être humain ne voudrait vivre. Pour Donald Trump, ce révérend noir déteste les blancs et les policiers. Ses critiques contre Baltimore et ses leaders ont provoqué un tollé dans l'opposition. La chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, les qualifiant de racistes. Ce matin, le président américain a repris ses attaques de plus belle. Baltimore, sous la direction d'Elijah Cummings, a les pires statistiques de crimes de la nation. 25 ans de bavardage, pas d'action, a écrit le locataire de la Maison Blanche. À la mi-juillet, Donald Trump avait appelé 4 élus démocrates du Congrès issus de minorités à retourner d'où elles venaient.
En Afghanistan, les candidats à la présidentielle démarrent leur campagne dans la peur. Au lendemain d'une sanglante attaque contre les bureaux d'Amrullah Saleh, un colistier du président afghan, Ashraf Ghani, connu pour ses positions hostiles aux talibans. L'attentat d'hier, commis à Kaboul le jour même du début de la campagne pour l'élection, prévue le 28 septembre prochain, a fait 20 morts et 50 blessés, pour la plupart des civils, selon un nouveau bilan publié aujourd'hui par le gouvernement. L'attaque non revendiquée a alarmé la classe politique afghane. Au moins 13 candidats ont retardé le lancement de leur campagne du fait de l'insécurité, mais aussi en signe de protestation. Ils estiment que le chef de l'État afghan, qui brigue un second mandat, profite de son statut actuel pour pousser son avantage. Première visite officielle du nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson en Écosse aujourd'hui. Il appelle à l'union du pays en réponse aux avertissements sur la perspective d'un Brexit sans accord. L'Écosse est la première étape d'une tournée dans les différentes nations composant le Royaume-Uni, pendant laquelle le Premier ministre tentera d'obtenir des soutiens pour son plan de Brexit et faire cesser les déclarations sur une possible dissolution de l'Union. L'Écosse a voté pour rester dans l'Union européenne au référendum de 2016. Pour la première ministre écossaise Nicola Sturgeon, les Écossais ont besoin d'une option alternative à la stratégie de Brexit de Boris Johnson, qui a promis que le Royaume-Uni allait quitter l'UE le 31 octobre avec ou sans accord avec Bruxelles. En Russie, l'opposant numéro 1 au Kremlin, Alexei Navalny, a été empoisonné par une matière chimique inconnue. C'est du moins ce qu'affirme aujourd'hui son avocate Olga Mikhailova. Navalny a été hospitalisé hier, tandis qu'il était en prison. L'avocate a précisé que les yeux de son client avaient le plus souffert et qu'une demande de libération pour raison de santé serait déposée. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité en Afrique et ailleurs dans le monde. D'emblée, un condensé de nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Kalani.
En Centrafrique, le ministère des Mines dénonce un règlement de compte après un rapport accusant des sociétés minières d'avoir causé un désastre écologique dans le nord du pays avec la complicité de certains responsables. Le rapport, publié le 13 juillet, fait état d'une pollution du fleuve Ouham et de nombreux décès dans le village de pêcheurs, ce que conteste le ministère. Il reconnaît toutefois que les sociétés ont maladroitement rompu leurs obligations et promet des enquêtes. Un second rapport accuse 3 agents du ministère des Mines d'avoir reçu des pots de vin, dont l'attribution de permis miniers à des sociétés chinoises pour 40 millions de francs CFA. Le Nigeria confirme son engagement à rejoindre la zone de libre-échange conclue récemment en mettant en place un comité chargé de la mise en œuvre de l'accord et en promettant de nouvelles lois si nécessaires pour promulguer l'adhésion au pacte. En cas de succès, cet accord créera un bloc économique de 3,40 milliards de dollars et ouvrira la voie à une nouvelle ère de développement en Afrique. Pour terminer, Dana Gas, producteur d'énergie des Émirats Arabes Unis, a engagé la banque d'investissement Tudor Pickering Holt & Company pour le conseiller sur la vente de ses actifs égyptiens de plus de 500 millions de dollars, selon 2 sources proches du dossier. Les ressources d'exploration et de production de Dana Gas en Égypte se trouvent sur la côte du delta du Nil, à l'exception du bloc 6 situé en Méditerranée orientale.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Basket pour commencer avec le camp de la NBA au Sénégal, dénommé Basketball Without Borders.
Oui, cette 17e édition a été lancée hier à Sali sur les installations de la NBA Academy Africa, qui se trouve en Bourg, à environ 80 km de Dakar. Pour cette année, le camp regroupe les 60 meilleurs joueurs âgés de 17 ans et issus de 29 pays africains. Davantage avec notre correspondant à Dakar, Seydina Abagué.
La NBA, ses stars et son top management se sont déplacés au Sénégal pour motiver les jeunes enfants africains amoureux de basketball. Le basket sans frontières, la NBA va en faire une réalité, comme l'affirme Amadou Galofal, vice-président de la NBA pour l'Afrique.
Notre objectif, c'est d'expandre tous nos efforts de développement du basketball à travers le continent.
Le directeur général de la NBA pour l'Afrique ajoute que la Ligue ambitionne d'organiser des matchs à Dakar.
Et puis encore, à partir de demain, on va amener le camp à Dakar Arena, qui est un joueur que nous voulons que le monde entier découvre.
Gourgui Sidien, pivot des Minnesota Timberwolves, estime que cette initiative permet au basketball africain de montrer ses jeunes talents.
Tous les pays n'ont pas l'opportunité d'accueillir cet événement et son lot de personnalités. Et c'est sûr que cela aura un impact car il y a des légendes, des joueurs de la NBA, des anciens, des managers de franchise. Bref, tout le gratin de la Ligue est là. Donc c'est une chance pour les jeunes et le basket africain.
Pour Takofa, le nouveau pivot sénégalais des Boston Celtics, ce camp de basketball de la NBA va offrir de nouvelles opportunités aux jeunes joueurs africains.
C'est une chose fabuleuse pour ces jeunes. Nous, on n'a pas eu cette opportunité. Moi, par exemple, j'ai commencé le basketball à 16 ans, alors qu'avec cette initiative, les jeunes ont l'occasion de pratiquer très tôt, ce qui permet de développer les bonnes aptitudes.
En plus des ateliers d'initiation et des matchs d'exhibition, la NBA va offrir un terrain de basket aux jeunes de la banlieue dakaroise. À Dakar, Seydina Abagui pour VOA Afrique.
Basketball toujours avec la victoire pour la RD Congo, championne de l'AfroCAN 2019.
À Bamako au Mali, la République démocratique du Congo a largement dominé le Kenya en finale 82 à 61 lors de la finale de la toute première édition de l'AfroCAN, une nouvelle compétition de FIBA Afrique réservée aux basketteurs africains évoluant dans leurs championnats nationaux respectifs. Satisfaction pour l'entraîneur adjoint des Léopards locaux, Piero Ilunga.
On a joué vraiment à plus de sagesse et d'intelligence. On a joué dans le système d'unité d'abord dans le staff technique et puis une bonne transmission de systèmes de joueurs. Et voilà, on a avancé petit à petit et livré les 5 matchs, 5 victoires. Donc nous avons apprécié le niveau était très fort. On ne savait pas qu'en Afrique on avait des championnats si durs, on pensait que c'était juste l'Angola et la Tunisie. Mais voilà qu'on a découvert le Tchad, on a découvert le Kenya. Ils ont un très bon niveau local des athlètes.
Piero Ilunga, entraîneur adjoint des Léopards au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Jacques Aristide de retour avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Il est l'heure maintenant d'aborder notre partie magazine dans Le Monde aujourd'hui. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié a rendu visite à Laurent Gbagbo à Bruxelles aujourd'hui, leur première rencontre depuis la crise post-électorale qui avait fait près de 3000 morts. Henri Konan Bédié avait apporté son soutien à Alassane Ouattara au deuxième tour de la présidentielle de 2010. Il est resté son allié jusqu'à l'année dernière avant de passer dans l'opposition en vue de la présidentielle de 2020. Que peut signifier ce tête-à-tête entre les deux anciens chefs d'État ivoiriens, Idriss Fall, adjoint César Etou, directeur du journal La Voix Originale à Abidjan?
Cela veut dire que la Côte d'Ivoire va très mal et que ces deux anciens présidents qui se sont connus, l'un Henri Konan Bédié, ou dans le sillage du pouvoir avec Félix Houphouët-Boigny et l'autre toujours dans l'opposition, sont arrivés à la conclusion qu'il faut qu'ils se retrouvent pour soigner le pays.
Mais ne serait-ce pas une coalition contre nature parce que M. Bédié avait soutenu en 2010 M. Ouattara?
Une coalition n'est jamais contre nature. Une coalition vise toujours un objectif précis. Aujourd'hui, M. Bédié s'aperçoit que la coalition qu'il avait passée avec M. Ouattara en 2006 contre le président Laurent Gbagbo est une coalition qui a desservi la Côte d'Ivoire. Alors, chez nous, en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement, on dit c'est le chemin qui conduit devant qui finit. Lorsque vous êtes dans un cul-sac, vous retournez tranquillement sur vos arrières pour mieux repartir dans le bon chemin. Je pense que c'est ce que le président Henri Konan Bédié est allé appliquer à Bruxelles en rendant visite au président Laurent Gbagbo.
Tous les deux, ils appellent à une réforme de la commission électorale indépendante qui était à la base de tous les problèmes en 2010.
Mais absolument. Vous savez, cette commission, il n'y a pas que le président Laurent Gbagbo et Konan Bédié qui appellent à sa réforme. L'Union africaine a appelé à sa réforme. L'ONU a pris une résolution pour recommander sa réforme. Sur cette commission, le pouvoir de M. Ouattara a perdu un procès devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutes les ONG de Côte d'Ivoire demandent la réforme profonde. Il n'y a que M. Ouattara qui continue de croire que cette commission lui convient. Les présidents Bédié et Gbagbo ne font que redire ce que toute la communauté internationale demande au gouvernement de M. Ouattara.
Dans l'esprit de 2020, les deux hommes participent à la vie politique ivoirienne depuis plus de 30 ans. Peut-on prévoir l'arrivée des jeunes, pourquoi pas Guillaume Soro, comme pourquoi pas Kakabé, comme pourquoi pas Charles Brégoudé?
Se présenter aux élections est une décision personnelle. Donc, laissons les uns et les autres prendre leurs décisions. Mais pour l'instant, ce qui préoccupe les Ivoiriens, c'est 1. La réconciliation nationale, un domaine dans lequel M. Ouattara a totalement échoué. 2. La réforme profonde de la commission électorale indépendante. Quand le décor aura été planté pour des élections apaisées, chacun avisera. Tout ce que vous citez, si les conditions d'élection sont telles qu'on doit déboucher encore sur la guerre, c'est même pas sûr que jeune ou vieux, que chacun se présente. Ce sur quoi il faut travailler, ce sont les conditions de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire pour que les élections ne débouchent plus sur la guerre.
On écoutait César Etou, il est directeur du journal La Voix Originale et il était en ligne d'Abidjan.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En République démocratique du Congo, le Front commun annonce une entente pour former un nouveau gouvernement. Cette annonce tombe au lendemain de l'élection d'Alexis Thambwe Mwamba, ancien ministre de la Justice, à la tête du Sénat. Pour une analyse, Eddy Sango a joint Willy Kalangay, éditeur du magazine Géopolis à Kinshasa.
Si l'on analyse de loin, on peut comprendre que l'équilibre a été fait. Que l'IDP se réjouit, c'est normal, parce que l'IDP a combien de sénateurs? Très peu de sénateurs, s'il y en a moins un. qui se revendique de l'UDPS et qui est au bureau, ce n'est que pour la forme une bonne chose. Il faut reconnaître aussi que beaucoup de gens qui avaient quitté l'UDPS ne l'ont pas quitté formellement. Il y a souvent des désamours circonstanciels entre des personnes qui suivent une stratégie du moment, mais quand ils ont une certaine victoire, elle revient à la maison mère, comme on dit ici à Kinshasa. Voilà ce que l'on peut dire de cette élection. Elle a été discutée, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, mais d'une manière ou d'une autre, le choix opéré par l'autorité morale du FCC, je crois que ce choix-là a prévalu, malgré qu'il y avait eu quand même un lever de bouclier et une ambition puissante et un combat très fort mené par l'adversaire Bahati.
Avec l'élection du bureau du Sénat, il y a aussi cette annonce du rapprochement ou de l'entente entre les FCC et les CACH au sujet du gouvernement. Qu'est-ce que cela augure-t-il d'après vous?
Je crois que les choses sont faites de manière à se synchroniser. Elles ont tellement fait longtemps, surtout l'élection, la désignation de l'équipe gouvernementale. Il fallait quand même qu'on mette un peu de la beauté dans la manifestation d'annonce. Il est vrai que la coalition CACH, FCC CACH, a peiné pour trouver des équilibres. C'est normal parce que au début du processus électoral, il n'avait jamais été question qu'il y ait une coalition. La coalition s'est imposée par le choix de la population. Les choix des électeurs ont imposé une coalition à des adversaires tenaces hier. Et n'oubliez pas que la campagne électorale avait commencé sur « au toit de là que je me mette ». Et que c'était ça aussi, j'y suis et j'y reste. Ce combat était tellement puissant qu'on n'a pas pu, d'une certaine manière, préparer les esprits à une troisième vague. Cette troisième vague, c'est celle, justement, imposée par une majorité parlementaire et une majorité présidentielle. Alors, il a fallu du temps, et 6 mois, c'est, je crois, le temps nécessaire pour que les esprits, d'abord, comprennent que la donne a changé et que personne ne peut aller sans l'autre. Jamais FCC sans CACH. En tout cas, c'est ça la portion qui, historiquement, aujourd'hui, est en train de se faire aujourd'hui. Je crois que l'annonce va être une annonce qui va montrer qu'il y a eu entente, qu'il y a équilibre et que on peut maintenant passer à la question des hommes. Eh bien, évidemment, cette question des hommes va aussi certainement créer des déceptions, mais ça sera à l'intérieur des familles politiques, pas dans la nation entière qui attendait ce gouvernement avec beaucoup d'impatience. Les temps sont au travail et je crois que le peuple n'attend que ce gouvernement soit jugé à l'action.
On écoutait Willy Kalengai, éditeur du magazine Géopolis. Il était au téléphone de Kinshasa, la capitale congolaise.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24h sur 24.
Le Fonds mondial pourrait réduire ou mettre un terme à ses financements au Cameroun. La raison, le non-versement par le gouvernement camerounais d'une partie du montant total de chaque enveloppe reçue. Inquiétude de la société civile de Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Gelenta.
La lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme sont les 3 axes d'intervention du Fonds mondial concernés par une éventuelle suspension ou diminution des financements.
Ce qui se profile, c'est un taux d'incidence du VIH plus élevé.
Serge Yota est le directeur exécutif de Affirmative Action, un organisme de la société civile qui promeut les droits humains et les droits en santé sexuelle.
Si on imagine un Cameroun où le Fonds mondial ne finance plus ou bien limite seulement le financement contre le Sida, d'ici 5 ans, tous les acquis qu'on a pu avoir jusqu'à présent soit perdu, qu'on est passé d'une prévalence par exemple du sida de 4,3% à 3,8%. Donc d'ici 5 ans, on peut passer encore une recrudescence, donc quitter de 3,8% peut-être à 5,3%.
Depuis 2003, le gouvernement a signé 15 accords de subvention avec le Fonds mondial pour un montant de près de 198 milliards de francs CFA. Pour la période 2018-2020, 4 nouveaux accords d'une enveloppe globale de 108 milliards de francs CFA ont été signés entre le Fonds mondial et le pays. Mais pour accéder à la totalité de ce dernier financement, l'organisme onusien exige que le Cameroun se conforme à sa politique de subvention. Le pays doit verser au plus tard, cette fin juillet, un peu plus de 48 milliards de francs CFA, qui représentent les 20% de cofinancement du gouvernement.
Les actions de citoyens ont été menées à un niveau très élevé. La réponse qui est mise en avant, c'est que le pays a plusieurs priorités.
Lumerlin Tsamo, secrétaire général du conseil d'association Positive Generation, qui travaille dans le domaine de la santé.
C'est vraiment dommage que la santé ne soit pas la priorité des priorités. Que le plus grand pays camerounais soit informée de la situation qui prévaut, des enjeux qui sont autour, et qu'elle puisse se mobiliser de manière à mettre la pression sur le gouvernement. Tant que ce sera une affaire de bureau, certains fonctionnaires de l'État camerounais auront tendance à croire qu'on peut jouer avec la santé camerounaise.
À cause de la non-disponibilité du cofinancement du Cameroun cette année, les populations des régions du centre, de l'est et du nord-ouest n'ont pas reçu des moustiquaires imprégnés d'insecticides. La société civile sensibilise à tout vent désormais sur la situation avec le concours de ses partenaires internationaux. Marie-Madeleine Mbala Ebengue, experte nationale chargée des questions du genre au programme des Nations Unies pour le développement.
La recherche du financement, donc ça fait partie de notre mandat. C'est la raison pour laquelle on a pris cette initiative de soutenir la société civile et les médias dans la recherche de financement complémentaire pour appuyer les efforts du Fonds mondial et du gouvernement du Cameroun dans la lutte contre les trois pathologies que sont le VIH, la tuberculose et le paludisme.
Contacté par VOA Afrique, le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, département de tutelle en matière de coopération économique internationale, n'a pas expliqué pourquoi le Cameroun ne parvient plus à honorer ses engagements. C'est un sujet sensible, a commenté sous anonymat un cadre de ce ministère. Pour la société civile, la santé de plus de 500 000 personnes vivant avec le VIH-Sida est en jeu. Yaoundé, Emmanuel Jountap, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Cap sur le Niger. À présent, le chef de file de l'opposition du pays, Hama Amadou, vit en exil depuis la dernière présidentielle, vous le savez. Eh bien maintenant, il y a un jugement qui est tombé à son sujet. Eh bien, il ne peut plus parler et agir au nom de son parti. C'est ce qu'a décidé un juge après une requête du président par intérim du parti de Niamey. Le reportage de notre correspondant Abdul Razak Idrissa.
Interprétant cette décision du juge rendu le vendredi 26 juillet dernier, le constitutionnaliste Amadou Boubacar Hassan indique qu'elle vient conforter la condamnation en 2017 de M. Hama Amadou dans l'affaire dite des bébés importés.
M. Hama Amadou risque justement de se voir opposer cette décision, sinon cette double décision du juge qui est constaté justement la perte de ses droits civils et politiques. D'abord, l'arrêt de la cour d'appel de Niamey de 2017 qui l'est condamné à un an, et sur cette base, l'article 8 du code électoral, justement, ne lui permettait pas d'être électeur, a fortiori être éligible. Et aujourd'hui, cette déchéance vraiment conforte cette position et que, sur le plan juridique, M. Hama Amadou ne pourrait plus prétendre être candidat aux élections présidentielles de 2021.
Malgré cette implication juridique, Hama Amadou et ses farouches militants restent sur leur position. La présidentielle de 2021, ce sera avec eux.
On n'est pas surpris de la décision de la justice. La justice a décidé, on est d'accord. Mais maintenant, nous avons dit que Hama sera notre candidat. Et même si on nous met où qu'ils veulent, Hama sera notre candidat. Nous, au niveau de Lumana, nous allons régler le sort du président Noma, parce que un membre de Lumana qui convoque un président de Lumana, donc c'est une faute grave.
Le sort de Omar Nouma a été justement réglé puisque dans l'après-midi du vendredi, plus de deux tiers des membres du bureau politique du parti ont décidé de désigner un autre intérimaire après avoir constaté, disent-ils, sa démission de fait en décidant d'assigner en justice le président du parti. Mais ce dernier ne l'entend pas de cette oreille.
C'est des gens que je peux moi qualifier de rebelles. Le matin, il y a une décision de justice qui me confirme intérimaire. Le soir, ils prennent une décision pour désigner un autre intérimaire, en violation des textes. Ce n'est pas que je suis contre Hama. J'ai donné ma vie pour lui. Je me bats encore pour Hama. Je me battrai pour lui, mais dans le respect de la loi. Parce qu'avant tout, la démocratie, c'est le respect de la loi.
En rappel, la décision du juge du vendredi dernier a été rendue sur requête de M. Omar Nouma, qui contestait une lettre envoyée par le président du parti, Hama Amadou, depuis son exil, mettant fin à sa fonction de président par intérim qu'il assure depuis le dernier congrès du parti tenu en 2014. Abdul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Et voilà, point final à cette édition du Monde aujourd'hui. La mise en onde a été assurée par Joselle Morissin. Michael Dubinsky était à la console. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine sur VOA Afrique. À très bientôt. Merci, take care.